Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal, avait dit Satan à nos premiers parents, pour les tenter et les faire déchoir de l'état parfait dans lequel ils vivaient au paradis. Effectivement, ils connurent le mal avec toutes ses conséquences, la souffrance, les maladies, la mort, etc. Aujourd'hui, Satan tente les hommes déchristianisés en leur faisant entrevoir la possibilité de remédier aux conséquences du péché originel, sans recourir à un sauveur. Il se sert pour cela des hommes qui ont développé les nouvelles technologies. C'est ce projet séduisant que le leader mondial du transhumanisme propose aux hommes de notre temps. Supprimer la mort, augmenter les capacités de l'homme, intellectuel, mémoire, le créer en éprouvette pour en faire un homme-dieu. Satan est le singe de Dieu. Il n'en est que le singe. Et donc, ses séductions sont grossières. Il reprend l'œuvre de la rédemption à sa façon, qui n'est qu'une parodie blasphématoire et matérialiste, source de maux plus grands encore. Si cette tentation a du succès, c'est parce qu'elle s'appuie sur cette vérité que l'homme est appelé à devenir fils de Dieu, immortel, avec des capacités extraordinaires, grâce à son corps glorieux, ressuscité, et à la vision béatifique. Maintenant, comme au paradis terrestre, l'objectif proposé par le serpent, « vous serez comme des dieux », n'est pas faux. Mais ce qui est faux, c'est le moyen d'y parvenir. Cela ne s'est pas réalisé par la désobéissance au début de l'humanité. Cela ne se réalisera pas non plus aujourd'hui par les nouvelles technologies. Mais cela se réalisera en acceptant l'invitation aux noces du Fils de Dieu. Alors, quelles sont ces noces du Fils de Dieu? Il y en a trois. La première, par son incarnation, le jour de l'Annonciation, il s'est uni hypostatiquement à la nature humaine dans le sein de la Vierge Marie. La deuxième noce, c'est quand il a fondé son Église, l'Église catholique. Il a contracté avec elle une alliance mystique, comme saint Paul nous l'enseigne, pour montrer la grandeur du mariage chrétien. La troisième noce, le Fils de Dieu se fiance à l'âme fidèle par la grâce. Selon cette parole du prophète Osée, « Je t'épouserai dans la foi ». Ces trois noces sont nécessaires pour préparer les noces éternelles, c'est-à-dire la vie bienheureuse, éternelle, pour toutes les âmes qui auront répondu à l'invitation et se présenteront à la salle des noces revêtues de l'habit, c'est-à-dire dans l'état de grâce et de sainteté. Par la première noce, le Fils de Dieu, devenu homme, va pouvoir souffrir et mourir pour satisfaire à la justice divine et rendre de nouveau Dieu favorable aux hommes. Par la deuxième noce, le Fils de Dieu nous donne dans son Église un guide sûr et les moyens de sainteté pour nous conduire au salut éternel, c'est-à-dire la vraie foi, le saint sacrifice de la messe et les sacrements. Par la troisième noce, il applique à chaque âme les fruits de sa rédemption et la conduit par les dispositions de sa divine providence à grandir surnaturellement jusqu'à la sainteté. Les deux premières noces sont des faits historiques dont toute âme peut bénéficier. Voyons maintenant la troisième, les noces mystiques que le Fils de Dieu a contracté avec l'âme de chacun d'entre nous. Cette union, eh bien, elle a commencé pour nous au baptême. Pour la plupart, quand nous étions tout petits, mais pour certains, peut-être quand ils étaient adultes. Il n'y a pas d'autre moyen que le baptême pour parvenir au royaume des cieux. C'est pourquoi notre Seigneur, avant de remonter au ciel, ordonne à ses apôtres d'une manière solennelle, par ses paroles, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Comme on aurait aimé que le pape François prononce ces paroles à Astana, au Kazakhstan, devant toutes les nations réunies par leurs représentants religieux. Avant sa passion, Jésus avait déjà insisté fortement sur la nécessité du baptême pour être sauvé. Lors de l'entretien qu'il eut avec Nicodème, c'était un docteur de la loi, un pharisien, mais c'était un homme droit, et il cherchait sincèrement le royaume des cieux. C'est pourquoi il est venu trouver Jésus de nuit, par peur des autres juifs qui auraient pu l'exclure de la synagogue, s'il l'avait su. Il vient trouver Jésus et il veut lui poser des questions pour en savoir plus sur sa doctrine. Et notre Seigneur va lui dire par deux fois, « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Puisque le baptême a une telle importance de la bouche même de Dieu, on comprend pourquoi l'Église a toujours enseigné qu'il faut baptiser les nouveau-nés quam primum, dès que possible. Le petit enfant qui n'est pas baptisé et qui vient à mourir ne peut pas aller au ciel, même si ses parents en ont un grand désir. Le désir, c'est le désir des parents, c'est pas le désir de l'enfant. Au temps où les saints et nombreux en terre chrétienne, on les sollicitait pour obtenir la résurrection d'un nouveau-né qui n'avait pu recevoir le baptême à temps. C'est ainsi, par exemple, que Sainte Jeanne d'Arc fut appelée dans une paroisse pour prier avec tous les fidèles réunis devant l'autel de la Sainte Vierge, afin de demander la résurrection d'un petit bébé qui venait de mourir là quelques heures avant, ou peut-être même la veille. Donc on lui apporte le bébé, on le place devant l'autel de la Sainte Vierge, il est tout froid, et on prie avec ferveur. Après les prières, l'enfant commence à devenir rose, il se réchauffe et il ouvre les yeux. On va vite chercher le prêtre et il le baptise, parrain et marraine sont présents, et aussitôt après le baptême, l'enfant meurt, son âme va directement au ciel. Les parents ne sont pas tristes. Ils rendent grâce. Leur enfant est au ciel. C'est un saint. Donc, la plupart, presque tous ces ressuscités, n'ont pas vécu. C'est donc uniquement pour qu'ils soient certainement sauvés que le bon Dieu a accordé ses grâces. Et montrer aux parents chrétiens que le baptême est la plus grande chose qu'ils puissent donner à leur enfant. Combien sont coupables les parents à l'heure actuelle qui attendent que les enfants aient grandi pour leur laisser prendre eux-mêmes la décision? Bien sûr, ils ont été mal enseignés, mais ils n'ont rien compris au don inestimable qui nous est fait dans le baptême. Avant le baptême, l'âme est esclave du démon. Nous naissons enfants de colère, dit saint Paul. Donc l'âme du petit bébé est un objet d'horreur devant Dieu, même si le bébé semble tout mignon. Le baptême, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, délivre l'âme de cette servitude. Il va infuser une vie nouvelle, surnaturelle. Il purifie l'âme totalement et l'orne des dons du Saint-Esprit et du cortège des vertus surnaturelles. Il en fait le temple de la Trinité. On est tellement habitué à ces vérités qu'on n'y fait plus trop attention. Quand il s'agit d'un adulte, tous les péchés et la peine due au péché sont effacés, si bien qu'un adulte qui mourrait aussitôt après son baptême, il va tout droit au ciel. Nous devenons véritablement enfants de Dieu objet de son amour et de ses complaisances. Et puisque nous sommes fils de Dieu, dit saint Paul, nous sommes aussi héritiers du royaume des cieux. Il est bon de se remémorer le don incomparable qui nous est fait au baptême, d'en être fier et surtout de vouloir vivre en vrai fils de Dieu. Saint Louis, roi de France, avait une conscience aiguë de cette grâce. Il aimait à signer les documents Louis de Poissy, du lieu de son baptême, disant qu'à Reims, on l'avait fait roi de France, mais qu'à Poissy, il avait été fait enfant de Dieu, nettement supérieur. Ce don du baptême est si grand qu'il peut inspirer de l'héroïsme à un adulte qui veut le recevoir. C'est ce qu'a compris l'Irakien Joseph Fadel, descendant en ligne directe d'un cousin du prophète, suite au songe que notre Seigneur lui a fait la grâce de recevoir pour le faire parvenir au christianisme. Cela se passe en 1987, il a alors 23 ans. Il fait un songe, et dans ce songe, voici ce qu'il dit. « J'étais au bord d'un ruisseau d'un mètre de largeur environ. Sur l'autre rive se trouvait un personnage d'une quarantaine d'années, plutôt grand, vêtu d'un vêtement beige, d'une seule pièce à l'orientale, sans col. Je me sentis irrésistiblement poussé vers cet homme, par l'envie de passer de l'autre côté pour le rencontrer. J'enjambais le ruisseau et me trouvais suspendu en l'air. L'homme me tendit la main pour me permettre de franchir le cours d'eau et j'arrivai à côté de lui. Je pouvais observer son visage. Des yeux bleu-gris, une barbe peu fournie et des cheveux mi-longs. J'étais frappé par sa beauté. Posant sur moi un regard d'une douceur infinie, il m'adressa lentement ces paroles. « Pour franchir le ruisseau, il faut que tu manges le pain de vie. » À mon réveil, j'étais tout joyeux. Au souvenir de ce songe, sans comprendre cette phrase énigmatique. Joseph Fadel, alors qu'il partageait sa chambre à Bassora, en Irak, pendant la guerre avec l'Iran, avec un soldat chrétien, celui-ci l'invite à lire l'Évangile. Alors, il lui conseille de commencer par l'Évangile selon saint Matthieu, mais Joseph Fadel, il n'arrive pas à s'expliquer pourquoi, il s'obstine à prendre saint Jean. C'est beaucoup plus difficile. Donc il ouvre saint Jean et il arrive au chapitre 6 et il lit ces paroles « Je suis le pain de vie ». Ce sont les mêmes paroles que dans son songe. Alors elles produisent en lui comme un coup de foudre. Il comprend que le personnage entrevu, c'est Jésus. Dès lors, il va chercher à connaître le christianisme. Son camarade d'armée, le chrétien Massoud, avec qui il a dit amitié, va l'aider. Mais se faire baptiser en terre d'islam, alors qu'on est musulman, c'est impossible. Alors il va se faire instruire, il va assister à la messe en cachette, etc., mais les prêtres refuseront toujours de le baptiser. C'est trop risqué, il risque de se faire tuer, et toute la paroisse catholique risque de se faire décimer. Il faudra attendre 13 ans. Après, il lui faudra fuir sa famille, son pays, pour arriver à se faire baptiser en Jordanie, où là, c'est un petit peu plus facile, après de nombreuses difficultés. Enfin, le jour béni arrive. Il est baptisé avec son épouse et ses deux enfants. Voici ses sentiments après la cérémonie. Je songeais à toutes ces années d'attente et de souffrance au cours desquelles j'ai parfois cru ma dernière heure arriver. Effectivement, ses parents l'avaient fait arrêter par la police secrète pour essayer de faire revenir à l'islam. Et donc, il avait été maltraité pendant un an dans les prisons de Saddam Hussein et il avait failli mourir. Mais je n'ai jamais aspiré qu'à une seule chose, vivre assez longtemps pour connaître cet instant. Alors le baptême est la porte des sacrements, vous le savez, donc Joseph Adel va pouvoir, ce jour même, en assistant à la messe, faire sa première communion. Il va recevoir le pain de vie avec une grande émotion. Maintenant qu'il est chrétien, il va pouvoir répondre à l'appel de notre Seigneur pour parvenir à la promesse de l'éternité. Il se sent vraiment un homme nouveau, il est plein d'énergie, il est prêt à affronter tous les obstacles. Et il n'a qu'un désir, communier tous les jours à ce pain de vie qui est sa force et sa joie. Pour garder sans tache la robe nuptiale qu'il vient de recevoir et faire face à toutes les difficultés qu'il va rencontrer. Et il va y en avoir encore. Il va faillir être tué encore une fois, là par son oncle, mais là il sera protégé. La balle tirée à bout portant ne l'atteindra pas, il sera simplement blessé par une autre balle. Et puis ensuite il devra affronter des difficultés administratives. Et finalement, il va finir quand même par pouvoir s'enfuir de Jordanie et venir en France, où là, il a pu témoigner à travers toute la France de sa conversion. La Sainte Eucharistie est en effet indispensable pour continuer l'union commencée au baptême. Il faut le baptême, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut l'Eucharistie pour nourrir cette vie commencée au baptême. Donc un double travail doit s'opérer en nous pendant tout notre pèlerinage terrestre. Un travail de purification qui comprend la lutte contre tout ce qui nous conduit au péché, un détachement des créatures et de nous-mêmes, et en même temps que ce travail de purification, le travail d'union de plus en plus grand avec notre Seigneur doit s'accomplir par la réception de la Sainte Eucharistie. Et notre Seigneur, dans son enseignement sur le pain de vie, est clair. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de Dieu et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Je suis le pain de vie descendu du ciel. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Comme le Père qui m'a envoyé est vivant, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. Donc il faut que notre vie chrétienne grandisse de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que notre Seigneur, la vie de notre Seigneur, soit de plus en plus grande en nous, et que notre moi, notre vie naturelle, eh bien, diminue. Tout ce qu'il y a de mauvais en nous, il faut que ça s'amenuise jusqu'à disparaître. La communion réalise en nous cette union avec notre Seigneur, qui est l'union la plus parfaite qu'il puisse se concevoir, si nous n'y mettons pas d'obstacle. Voici résumé par un auteur spirituel l'effet de la Sainte Communion dans notre âme. Le corps de notre Seigneur se mêle avec notre corps, son sang avec notre sang, son âme se joint à notre âme, nous rendant semblables à lui. Notre corps participe aux divines qualités du sien, notre âme aux grâces de la sienne, selon qu'il lui plaît de se communiquer à nous. Son imagination règle la nôtre, son intelligence éclaire la nôtre. Nous n'avons pas besoin d'intelligence artificielle, etc. C'est l'intelligence de notre Seigneur qui éclairera la nôtre. Sa volonté échauffe et fortifie la nôtre. Sa sensibilité modère la nôtre et y éteint le feu de la concupiscence. Il arrache nos mauvaises habitudes, étouffe les semences du péché, tempère nos humeurs et dispose tout de telle sorte que la pratique de la vertu devient facile. Donc c'est un vrai travail de transformation que la Sainte Eucharistie opère en nous si nous n'y mettons pas d'obstacle par notre attachement à nous-mêmes, au péché et aux choses de la terre. Donc on comprend mieux les paroles de notre Seigneur à Joseph Adel. Pour franchir le ruisseau, c'est-à-dire me rejoindre au ciel, il faut que tu manges le pain de vie. Alors, préparons bien nos communions. Rendons grâce pour un si grand bienfait. Approchons-nous le plus souvent possible de la Sainte Table avec foi. Nous en aurons besoin pour rester fidèles dans les temps difficiles que nous vivons. Comme pour Joseph Adel, Jésus sera notre force dans l'adversité et notre joie au milieu des tristesses de ce temps. Que Notre-Dame nous donne faim et soif de son Fils et le reçoive en nous dans son cœur immaculé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.